Georges de Portoriche, Guy de Maupassant. Il n'a pas l'air d'un homme de lettres. Monsieur Guy de Maupassant est un gaillard de 35 ans, assez mince, de tournure militaire, correctement vêtu. Vu de loin, quand il ne sait pas qu'on le regarde, il a dans la physionomie quelque chose de dur et d'insolent. Mais dès qu'on cause avec lui, l'aspect se modifie, et l'effronterie de tout à l'heure fait place à une bonté polie qui semble naturelle. Une placidité souriante l'enveloppe de la tête aux pieds. Le regard est peut-être soupçonneux, mais la voix est particulièrement douce. Les manières réservées manquent un peu de familiarité. L'ensemble est circonspect, très modeste. Maintenant, vous pouvez le voir pendant des années, tous les jours, quelles que soient les circonstances, vous aurez toujours devant vous le même être indifférent. Il s'exprime exactement comme il écrit. En l'écoutant, on reconnaît sa prose. Sa conversation est prudente, calculée. Il ne dit que les choses nécessaires et parle rarement de lui. Il n'attaque pas, mais sa parole est dangereuse. On a toujours tort avec ce Normand. L'auteur de la maison Tellier est chaste dans ses propos. On ne craignait pas de l'inviter avec des jeunes filles. C'est un homme du monde accompli. Si quelqu'un, enhardi par sa présence, aventure quelque histoire polissonne, M. Guy de Maupassant sourit, mais pas plus que les autres. Il voit tout de suite à quel public il a affaire et ce qu'il peut risquer. Oh, je vous défie de l'entraîner. Au fond, je le crois de ceux qui ne savent pas être inconvenants à demi. Monsieur de Guivoissant ne plaisante pas sur certains chapitres. Il est d'ailleurs d'une impassibilité singulière. Jamais il ne questionne. Jamais il n'insiste. Jamais ses façons ne trahissent la moindre curiosité. On ne se sent même pas observé par lui. Que la conversation tombe quand il est chez vous, il la laisse tomber mais ne s'en va pas. On se demande toujours si on l'ennuie ou si on lui fait plaisir. Il semble jouir de la gêne des gens et, quelle que soit la chaleur de l'accueil d'aujourd'hui ou de celui d'hier, il partira comme il est venu. Sa poignée de main est invariable. Peu lui importe la valeur de l'interlocuteur ou l'objet de l'entretien. Il écoute les discussions les plus élevées, les plus inepties, les plus lourdes, avec une égale sérénité. Tous les hommes et toutes les choses doivent avoir la même importance ou la même insignifiance à ses yeux. Si on le jalouse, oh, lui ne jalouse personne. Fait assez rare par le temps qui court, il n'a pas la maladie du confrère. Les succès de Zola ou de Daudet ne l'empêchent pas de dormir, ça lui est égal. Il n'appartient à aucune coterie, il n'est d'aucune bande. Je ne connais ni ses admirations ni ses haines. Il gagne 60 000 francs par an avec sa plume et ne s'occupe pas des autres. Il ne les lit même pas. S'il vous dit le contraire, il se moque de vous. Il aime bien mieux canoter. Oh, son bateau, il le préfère à tout. Ce qui l'intéresse et qui lui donne de vraies joies, c'est la nature. Il vit avec elle. Elle seule l'émeut et l'attendrit. Pour les champs, les bois, les rivières, le soleil, c'est insensible à du cœur. Rappelez-vous le voyage en Corse, d'une fée la Normandie de ses nouvelles. Dès qu'il vous explique un chemin vert, un clair de lune, une berge, ce n'est plus seulement un réaliste, c'est un poète amoureux qui décrit. On dirait un amant vous révélant les beautés de sa maîtresse. Cette adoration l'absout de bien des choses. En le regardant de près, je trouve qu'il ressemble à ces paysans. Comme eux, il me paraît à la fois misanthrope et farceur. Rustique au fond, patient et madré, rêveur malgré lui et libertin bien entendu, puis d'une volonté, d'une clairvoyance peu commune. Homme fort, il sait ce qu'il fera demain. Il connaît sa vie d'avance et le genre d'émotion qu'il aura. Le reste, ou du moins ce que j'en peux dire, demande quelque attention. Je veux parler de sa défiance excessive. Cette défiance constitue le trait principal de son caractère. Elle explique son attitude fermée, son langage déconcertant, ses actes et, dans une certaine mesure, l'observation amère de l'écrivain. La préoccupation constante de Guy de Maupassant est de n'être pas dupe, et il trouve toujours qu'il est trop, bien qu'il soit le plus rusé des hommes. Il méprise les sensibles et les chimériques. Il ne se livre pas, il ne croit personne. Enfin, il marche revolver au poing. Avec lui, naturellement, ni vertu ni délicatesse, l'intérêt et la vanité conduisent seul le monde, et il n'y a pas d'exception. Si on lui témoigne de l'amitié, il dresse l'oreille, il attend. S'il rencontre une bonne action, il la démonte. Les vilains tours le ravissent. C'est la mise en chair et en os des maximes de La Rochefoucauld. Il devait faire son chemin, organisé de la sorte. Oh, quelque caractère qu'il eût entreprise, il eût réussi. Il faut dire à sa décharge qu'il ne se juge pas meilleur que les autres, loin de là. Dans ces jours de prétendu abandon, M. de Guy de Boissant énumère avec complaisance ses coupables penchants. Il nous avertit de sa sécheresse et de son habileté à mentir. Il proclame hautement les mépris de son art et son amour immodéré de l'argent. Allons croire, la liste serait longue de ses méfaits. Entre nous, il exagère. On n'est jamais ni si bon ni si méchant qu'on s'imagine. Et je sais de lui plusieurs traits généreux qu'il cache soigneusement et qui vont à l'encontre de ses théories. Que M. de Guy de Maupassant me pardonne. Je serais confus de lui être désagréable en le dénonçant à l'estime des gens de bien. Mais la vérité m'oblige à le déclarer. Je le tiens pour un ami dévoué et le plus sûr des confrères. Je soupçonne seulement de vouloir étonner. Et ce n'est pas tout à fait sa faute. Le monde qui mêle constamment les questions de talent et les questions d'individus n'admet pas que les artistes aient de simples natures de bourgeois. Il leur demande des qualités exceptionnelles, et surtout beaucoup de vices et des extravagances. M. Guy de Maupassant, avec son sens pratique des choses, y compris et travers, voilà pourquoi il s'applique à se calomnier. Il veut à tout prix qu'on ait mauvaise opinion de lui, c'est une attitude. « Bel ami, c'est moi !» disait-il en riant au moment de l'apparition de son volume. Et quand on allait le voir, alors on le trouvait en train de travailler avec une énorme casquette à pont sur la tête, une casquette ornée du petit animal aquatique que vous devinez. Les accroche-cœurs n'étaient pas oubliés. La gloire, n'est-ce pas le droit d'étaler impunément ses défauts, et même ce qu'on n'a pas ? À présent, ces étranges façons contiennent peut-être une part de vérité. Il y a une dizaine d'années, M. Guy de Maupassant habitait Sartrouville, au bord de l'eau, et sa grande distraction était de repêcher les noyés dans la Seine. Il reste en lui de cet homme extraordinaire. M. de Guy de Maupassant habite Paris le moins possible. Il passe l'hiver au bord de la Méditerranée, près de sa mère. Et l'été, quand il ne voyage pas, il est souvent à Étretat. Il s'est bâti là-bas, sur la route de Criquetot, une petite maison jaune qu'on voit de loin se dresser entre un verger et un potager. Il aime mieux les fruits et les légumes que les fleurs. Pendant ses rares séjours à Paris, M. de Guy de Maupassant est installé rue Montchanin, au rez-de-chaussée d'un joli hôtel qui appartient à monsieur Le Poitevin, le peintre. Le logis est simple, encombré de bibelots de mauvais goût, très chaud, très clos, très parfumé. À peine est-il arrivé que le monde le prend. On l'accable d'invitations, et quand un ami lui demande de venir dîner chez lui, monsieur de Guidevoisin ouvre gravement, comme un docteur, un petit carnet au coin doré, et lui indique un jour fort éloigné. Sa table de travail est couverte de lettres, de sachets, de photographies, de billets armoriés. Tout cela, des gâteries et des hommages de femmes. Elle le recherche, elle l'adule, elle se dispute ses manuscrits, elle corrige ses épreuves. C'est même généralement une amie qui réunit les chroniques publiées par lui à droite et à gauche dans les journaux. Et quand il en a suffisamment pour former un volume, la main soigneuse les livre à l'éditeur. Monsieur de Guidevoisin donne son approbation, voilà tout, et n'y pense pas davantage. Comment ne serait-il pas la préoccupation, sinon l'idole de toutes les femmes? Chacune sait bien qu'il est un savant, dont elle est la science et le culte. Cela lui donne un prestige incroyable, et dans tous les modes, ses aventures les plus inattendues lui arrivent. Là même où M.B. triomphe d'habitude, si M. Guy de Maupassant apparaît, M. B. a tort. C'est que la psychologie ne suffit pas. B commence, Maupassant achève. L'autre jour, j'entendais une femme en vue dire à un diplomate qu'il admirait beaucoup « Oh, vous, je sais bien pourquoi vous me faites la cour. Vous croyez que je suis l'ami intime des Maupassant et cela vous borne la tête. Mais mon Dieu, que leur enseigne-t-il donc ? Peut-être énormément, peut-être rien. Ça dépend. On n'a pas toujours à leur apprendre. Ah, si j'avais la santé, soupirait une autre en le regardant. Pourtant, si recherché qu'il soit par elle, il goûte peu les femmes du monde. Sa tranquillité s'accommode mal des tracas de l'adultère. Les préliminaires l'ennuient. Il ne lit jamais de préface. En général, il réserve la femme mariée pour l'amitié. Il adore la femme, on en peut douter, mais à sa manière, comme quelque chose de la nature, comme un fruit magnifique et savoureux où il peut mordre à pleines dents. Ce faune débraillait la forêt de l'Olympe. Monsieur Guy de Maupassant n'aura pas de peine de cœur. En prenant les choses, il est prêt à les quitter. Il n'a pas éprouvé, il n'éprouvera jamais le désir de tendresse qui nous tourmente tous. Certaines émotions ne sont pas dans son pouvoir. C'est un impuissant moral. Au moins, les irrégulières lui demandent rarement les sentiments qu'il ne peut donner et que, par conséquent, il ne réclame pas d'elle. J'adore le poulet, j'ai pas besoin que le poulet m'aime, proclamait un vieux marquis en parlant d'une jeune danseuse qu'il détestait. Eh bien, monsieur de Guidevoisin est ainsi. Le cœur de la femme, il ne s'en sert pas pour l'amour. Monsieur Guy de Maupassant aime beaucoup recevoir, il reçoit d'une façon charmante. À Paris, à Cannes, Étretat, à Chatou, n'importe où il se fixe, il donne de petits dîners fins où tout le monde, je devrais dire tous les mondes, tient à honneur d'assister. Il y a des séries. Les duchesses ont leur jour, les affranchis le leur, et les artistes sont mêlés avec discernement, soit aux unes, soit aux autres. Les jours honnêtes, sa cousine, Madame Le Poitevin, préside. On cause, on potine, on joue. Pas aux cartes, mais à des jeux littéraires. Oh non ! Le jeune maître considère son art comme un labeur qu'il faut oublier en passant la mie noire. Quand les affaires sont finies, on n'en parle plus. Et les jeux qui règnent chez lui sont des jeux d'enfants où l'on se bouscule beaucoup, où l'on se frôle un peu. L'amusement en faveur aujourd'hui est le mouchoir. L'exercice consiste à faire, attrapé par une patiente ou un patient, placé au milieu du salon, un mouchoir que se lancent les personnes assises aux différents coins de la pièce. Monsieur Guy de Maupassant a introduit ce jeu dans les maisons où l'on se pique le plus d'intellectualité. Nous connaissons plus d'une mondaine qui se livre à cette violente gymnastique sans pouvoir saisir au passage le chiffon fugitif. Monsieur Carreau a joué à ce jeu, Madame Aubernon y jouera. Je sais même un avocat à la mode qui vient d'être atteint de la folie du mouchoir. Quand il est seul, plongé dans le travail le plus sérieux, il se lève tout à coup et agite des bras désespérés pour s'emparer d'un mouchoir imaginaire. Impossible de le guérir. Espérons que les littératures corrigeront les gens du monde de la manie de la littérature. Un hiver, j'étais à Cannes en même temps que M. de Guy de Maupassant. Je le rencontrais dehors, toutes les heures du jour et de la nuit, sur terre, sur mer, partout. Et je me demandais à quel moment il travaillait. Oh, le mystère est bien simple. Il travaille à peine 2 ou 3 heures par jour. Il a une facilité prodigieuse, une facilité dont il se défend. Je n'en veux pour preuve que ce peu d'instants consacrés à son métier et à sa puissance de production. Depuis 1880, époque où il a débuté, il a donné plus de 300 nouvelles. Oh, je ne parle pas de ses romans, qui sont très longs, et notez qu'il s'agit là d'œuvres éminemment artistiques. Ses manuscrits d'une écriture nette et ferme sont sans rature. Quand il travaille paisiblement, comme il mange, comme il cause. Monsieur Guy de Maupassant ne connaît pas l'exaltation. Si un fâcheux sonne chez lui pendant qu'il est à table, Monsieur Guy de Maupassant le reçoit. Et quand le visiteur est parti, il reprend avec philosophie sa tâche interrompue. On ne risque pas d'être importun avec cet homme. Lisez par-dessus son épaule, vous ne le gênerez pas, vous ne serez pas indiscret. C'est un écrivain qu'on ne dérange jamais. Pour lui, l'inspiration n'existe pas. Vous supposez bien qu'une telle assurance ne s'obtient pas d'emblée. Lorsqu'il était encore qu'un obscur et pauvre employé du ministère de la Marine, M. Guy de Maupassant s'échappait souvent de Paris le dimanche et prenait le train de Rouen. Il allait au Croisset soumettre à Flaubert la nouvelle écrite entre les dossiers administratifs sur le papier du gouvernement. Et tout en déjeunant, il lisait son travail pendant des mois, pendant des années. Le terrible auteur de Madame Bovary déchira les manuscrits. Il y a 6 ans seulement que M. Guy de Maupassant appartient au public, mais il y a plus de 15 ans qu'il écrit. Si je l'osais, je dirais que l'élève a dépassé le maître. Seul ou presque seul parmi nos romanciers, M. Guy de Maupassant me semble avoir produit des chefs-d'œuvre. Boule de Suif, Les Sabots, Un héritage, Une fille de ferme, Miss Harriette, Ce cochon de Morin, Mademoiselle Fifi, Un baptême. Oh, je suis tenté d'ajouter « Belle amie » assure sa gloire. Ses ouvrages sont la vie même. Ses personnages n'ont pas d'auteur. Ils marchent, parlent, agissent devant nous comme des êtres réels et familiers. On les a rencontrés, on les reconnaît. M. de Guy de Maupassant n'a pas l'air de penser, et il fait penser plus que bien d'autres. Il ne ressemble à aucun écrivain contemporain. Par main côté, il me rappelle les vieux maîtres du XVe et du XVIe siècle. Évidemment, il procède de Rabelais, de Brantôme et des joyeux conteurs de cette époque. Il a leur franchise, leur observation implacable, leur obscénité innocente. Il a aussi leur suprême indifférence pour le bien et pour le mal, leur vigueur, leur invention. Quant à sa forme, je n'en vois pas bien de plus belle, même en cherchant dans les romans fameux. Elle fait la joie des lettrés et des illettrés. Elle met tout le monde d'accord. En écrivant, monsieur de Maupassant, n'oublie pas qu'il faut plaire aux ignorants en même temps qu'aux habiles. Mais l'analyse de son œuvre exigerait de longues pages. Tant pis pour l'Académie s'il n'en franchit pas le seuil. C'est un admirable prosateur, un grand artiste, et je ne crains pas de l'avancer, le plus fort de nos réalistes. Il a peut-être moins réfléchi que Zola, mais il a plus regardé. Prenez-y garde. Ce jeune homme qui ne parle jamais de son talent pourrait bien avoir pour quelques siècles de célébrité.